Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juin. Et donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir eh bien, un groupe en studio avec une petite chanson live prévue à la fin. Bien sûr, c'est Alan Crossley and the Teens qu'on aura la chance d'entendre tout à l'heure. On va aussi commencer notre cycle d'interviews autour des législatives avec aujourd'hui les candidats de la majorité présidentielle qui présenteront leur programme et donc leurs grandes idées. Et on va continuer aussi notre feuilleton engagé depuis lundi autour des témoignages de la Seconde Guerre mondiale récoltés par Andy. Et comme chaque mercredi, une chronique UFC que choisir, ça ce sera plutôt en fin d'émission. Mais d'abord, on va commencer par un point sur l'actualité avec le groupe Lactalis mis en examen pour escroquerie, tromperie et fraude. C'est le groupe Serval basé à Sainte-Anne dans les Deux-Sèvres. Le fabricant d'aliments pour l'allaitement des veaux avait porté plainte fin 2018. Le géant laitier aurait fourni du lactosérum coupé d'un sous-produit du lait sans protéines appelé Permea. Cette mise en examen devrait donc déboucher sur un procès. Deux blessés graves dans un accident de la route hier soir. Il a eu lieu à Château-Gontier sur la départementale 28 vers 21h. Une conductrice âgée de 32 ans et son enfant de 4 ans ont été gravement blessés et transportés à l'hôpital d'Angers. La conductrice de l'autre véhicule, âgée elle de 24 ans, a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital de Château-Gontier. Une nouvelle victime de la Covid-19 en Mayenne, ce qui porte le nombre de décès dus au coronavirus à 540 depuis le début de l'épidémie. Le taux d'incidence de la Covid en parallèle baisse dans le département. Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé, il est passé à 249 nouveaux cas pour 100 000 habitants il y a une semaine, contre 191 aujourd'hui. Puis autre chiffre en baisse, le nombre de patients en réanimation qui est passé à 17. Et puis on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, la musique évidemment, avec le groupe Alan Crossley and the Teens qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui avec Arnaud et Alexandre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, on a réglé les micros pour le titre acoustique tout à l'heure. J'espère que ça ira aussi pour répondre, d'avoir un petit peu aux questions, vous présenter, savoir un petit peu eh bien, qui vous êtes déjà, comment s'est formé le groupe bien sûr, et comment est-il né, c'est ça que, est-ce que vous connaissez déjà depuis longtemps avant?
Pas très longtemps en fait.
Je connais pas, tu t'appelles comment?
Mais qui êtes-vous? Non, peut-être raconter en tout cas la genèse du groupe, la création.
Bah, la création, c'est toi Arnaud, du coup c'est ton projet. Donc en fait, oui, le projet c'est les compositions d'Arnaud à la base. Et moi en fait, je l'ai rejoint il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi, deux mois.
Ah oui, donc c'est tout récent.
Ouais. Et donc du coup, bah, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de David Tessier qui bosse au studio des Ribaudières à Laval et qui m'a donné le contact d'Arnaud. Donc après on s'est rencontrés, on a commencé à faire connaissance et voilà. Depuis, voilà, on a fait quelques concerts, on compose ensemble, on essaie d'organiser le projet, de faire des nouvelles choses.
Donc voilà, début de ce groupe. Donc c'est vous Arnaud qui avez initié aussi, quelle était l'idée de base, l'ADN peut-être, en tout cas de la musique?
En fait, ça fait longtemps que j'écris des chansons et je faisais des concerts avant tout seul, où j'avais un groupe quand j'étais à Paris, parce que j'habitais à Paris aussi. Et là, je suis parti au Canada pendant 3 ans, à Montréal, et j'avais un peu mis de côté la musique, en groupe en tout cas, j'ai continué à écrire des chansons, mais j'avais mis un peu ça de côté. Et du coup, en revenant, j'ai voulu reprendre ça et puis faire des concerts. Et puis voilà, essayer de faire les choses proprement pour enregistrer un premier album, qui est l'objectif en fait là. En termes de chansons, voilà, on a ce qu'il faut pour enregistrer un album, donc ça c'est le... C'est vraiment l'objectif d'ici la fin de l'année d'enregistrer notre premier album et puis de faire des concerts. Là, on fait pas mal de concerts dans la région en ce moment. Et puis cet été, on va partir en tournée à Jersey, dans les îles anglo-normandes. On a une petite tournée d'une dizaine de dates.
Oui, donc voilà. Déjà pas mal de dates
ouais,
prévues aussi.
En fait, ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est étrange parce qu'en fait, on n'a rien sorti encore. On n'a pas d'album et tout, mais on fait quand même pas mal de concerts. Là, on va être une vingtaine en Mayenne cette année dans la région. Et puis une dizaine cet été à Jersey, donc ouais, c'est pas mal.
Et d'expérimenter justement, forcément la scène c'est là où ouais, on peut profiter le mieux.
L'idée c'est de se faire la main aussi avec la nouvelle formule où on est plusieurs. Et oui, donc du coup l'objectif, comme Arnaud disait, c'est de faire l'album à la fin de l'année et on a prévu de faire un clip aussi. Donc voilà, grâce à tout ça, on pourra vraiment progresser et vraiment être plus professionnel par la suite, quoi.
C'est ça en tout cas l'objectif quand vous dites plusieurs sur scène, puisque là on n'a pas forcément la chance d'avoir tous les membres du groupe.
Non, c'est trop petit. Hein,
il y a combien, vous êtes combien sur scène si on va vous voir justement à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Là en fait on est trois pour l'instant, il nous manque encore un batteur percussionniste qu'on n'a pas trouvé.
Ah bah c'est l'occasion.
On passe l'annonce ainsi à un batteur intéressé.
Ouais.
On est ouvert, il n'y a pas de problème.
Et en fait là on est trois pour l'instant, il y a un bassiste qui nous accompagne aussi. Après ça dépend des dates. Compte tenu de la superficie des bars, ils peuvent pas toujours nous accueillir.
On peut s'adapter en fait suivant le lieu du coup.
Donc moi des fois je joue en solo avec un partenaire aussi qui s'appelle Émissaire, Cyril, qui fait de la musique aussi, qui fait ses chansons. Donc on fait quelques concerts à deux comme ça.
Et qu'est-ce que ça change justement d'être sur scène forcément tout seul ou bien tous les deux ou bien même à trois voire potentiellement avec un batteur ensuite? Est-ce qu'on vous ajustez les morceaux, la manière aussi de jouer? Comment est-ce que vous vous adaptez?
Ouais, quand on sera vraiment au complet, les morceaux ils vont prendre vraiment une autre dimension. Ça va être beaucoup plus énergique, plus électrique aussi. Là, c'est vraiment en mode plus acoustique, on est du moins deux. Et voilà, on veut vraiment faire un projet, bouger le projet de manière plus énergique. Et ça nous, enfin, si on est du coup quatre, ça nous permet aussi d'avoir accès à d'autres types de scènes.
Aussi, après, ouais, exactement. Ouais,
l'avantage, ouais. C'est que à l'inverse, quand on est que deux. C'est des concerts acoustiques, mais il y a une proximité qui est aussi différente avec le public.
Oui, le lien avec le public ouais, est différent dans c'est ces ça. Cas-là. Être quatre, bah, c'est vrai que déjà rien que sur scène d'avoir une batterie, forcément, ça rajoute encore autre chose.
Après, moi j'aime bien jouer tout seul aussi, mes chansons. Je sais pas, c'est un truc. On est un peu tout nu, quoi. On est juste la guitare, la voix, et ouais, c'est une sorte de mise à nu qui peut être intéressante, qui est difficile, enfin qui est. Difficile parfois, mais qui est intéressante aussi, je trouve.
Ce qu'on se dit, c'est que si le morceau il sonne bien déjà tout seul ou juste à deux, c'est qu'en groupe, voilà, ça pourrait être vraiment que du positif en plus, quoi.
Et finalement, c'est un peu un test. C'est vraiment le test ultime, voilà. Si ça marche. Voilà.
On passe un petit bonjour à Pierre aussi, le bassiste, s'il nous écoute.
Ah, c'est son anniversaire. Ah,
non, c'était son anniversaire hier, donc rebon anniversaire.
Happy birthday to you.
Bah, bon anniversaire en retard, je sais pas si ça se dit, mais bon, on va lui souhaiter quand même.
Ou un non-anniversaire, comme dans Alice en Pays des Merveilles. On te souhaite un joyeux non-anniversaire.
C'est vrai, on pourrait faire ça aussi.
On pourrait faire ça.
Je pensais par rapport aux compositions, donc vous composez tous les deux, c'est ça? Comment ça se passe?
Non, j'écris les chansons, il les joue. Non, je déconne. En fait, à la base, c'est moi. Oui, j'ai écrit les chansons, les textes.
Donc sur les textes, voilà. Okay.
J'écris les textes et j'écris les accords, les mélodies aussi. Et puis après, Alex, il amène sa guitare lead électrique pour faire un petit peu un accompagnement, trouver des lignes mélodiques.
Je rajoute des harmonies, des choses, des parties pour agrémenter les morceaux et des chœurs aussi pour la voix.
Ouais, c'est ça.
Ok, donc oui, ça se fait, l'échange, il se fait effectivement à ce niveau-là. Sur... Bon, là, on va vous entendre d'ici quelques minutes. Sur les textes, justement, ça, quand vous disiez vous mettez à nu, ça parle de quoi, ces textes?
Oh, ça parle de plein de choses. La chanson qu'on va jouer tout à l'heure s'appelle Lust for the 70s. Ça veut dire la soif des 70s. Alors, ça parle un peu de ma vision des années 70, même si j'étais pas né à cette époque-là. Mais...
Qui a inspiré votre musique aujourd'hui, d'ailleurs? Est-ce que vous avez des...
Ouais,
ou pas forcément,
j'adore
enfin, je me posais la question.
J'adore effectivement les groupes des années 70. Je pense David Bowie, par exemple, Supertramp, les trucs comme ça. Ça m'a beaucoup inspiré. Après, les années 60, surtout pour moi, les Beatles, tout ça, c'est un peu la base. Mais oui, mais en fait, ouais, la vision un peu psychédélique des années 70 que je peux avoir, ça a inspiré cette chanson. Après, c'est les thèmes récurrents dans la musique pop ou rock, c'est les filles, les soirées, tout ça, quoi. Les histoires d'amour, les séparations, qui inspirent un peu mes morceaux. C'est peut être assez personnel parfois, mais j'essaie de d'inventer des personnages parfois. Ouais.
On peut retrouver selon les.
Mais ouais, c'est marrant. Quand j'écris les chansons, j'ai tendance à pas trop réfléchir. Aux paroles, j'écris souvent la mélodie d'abord.
D'accord, c'est plutôt dans ce sens-là.
Et finalement, après, je chante et j'ai tendance à écrire un peu les mots qui sortent de ma bouche directement sur le papier. Et généralement c'est dans ce sens-là, d'abord la musique, après les paroles. Sauf pour une ou deux chansons pour lesquelles j'avais écrit le texte avant. Et j'ai écrit la mélodie après, ouais. Mais souvent, c'est plutôt la mélodie avant les paroles.
Et c'est quelque chose qui s'est fait assez vite, puisque vous disiez votre rencontre remonte à seulement il y a 2 mois. Et au final, vous avez déjà quasiment les chansons toutes prêtes pour quasiment
un
album.
Enfin, les chansons, ça fait longtemps. Hein. Ça fait peut-être 15 ans que j'écris des chansons, un peu moins, non, peut-être 12 ans, 13 ans. Ouais, que j'écris des chansons, mais j'ai jamais sorti d'album, j'avais jamais rien fait avec avant. Et donc là, j'ai décidé que c'était peut-être le moment et tout, comme j'ai peut-être une trentaine de chansons, de faire un truc avec, quoi, qu'elles restent pas au placard et de les proposer à l'écoute aux gens.
Et de monter sur scène, là, d'avoir les premiers concerts, quel retour vous avez eu, qu'est-ce que ça vous a procuré aussi Voilà, comment ça s'est passé?
Bah, c'est cool en général, hein, franchement.
Il y a une bonne ambiance qui s'installe la plupart du temps. Les gens, ils se prennent au jeu vraiment. Et... Après, je sais que moi, pour ma part, j'avais d'autres projets avant. Ça faisait presque 2 ans avec tout ce qui s'était passé, le Covid, qu'il n'y avait rien.
Oui, c'est ça. Là, c'est plus facile, j'imagine, pour les concerts aujourd'hui.
Moi, le fait d'avoir rencontré Arnaud aussi, ça a permis vraiment de remettre sur un projet sérieux et avec des ambitions derrière.
Yes.
Donc d'avoir ça aussi, eh ben justement, ça va être l'occasion, je pense, d'entendre cette fameuse chanson dont je vous laisse rappeler le titre pour être sûr de ne pas me tromper.
Lust for the 70s.
Et c'est parti.
Now, ok. Ready, man?
Let's go.
The 70s, sailing on the 7 seas to flower power girl, it seems so wonderful. Oh, let's for the 70s, dreaming of realities, nothing on the pavements but keep on chasing sound. And you can do whatever you please, dancing to shabby disco song. When you don't know whatever you feel, it's good as you don't feel alone. Oh, we could go wherever you please, just calling to myself into your megaphone. Oh, with your sexy tone, well, you can take me on your hipster paradise. Lust for the 70s, the mighty musicality, to meet you on the dance floor at the Blue Jazz Club. And we can do whatever we please, or dancing to that shabby disco song. When you don't know whatever you feel, as good as you don't feel alone. Oh, we could go wherever. Please, just calling to myself into your megaphone. Oh, with your sexy tone, well, you can take me on your hipster paradise. Garrison and kind of shadow in the haze. I can't resolve the self-control. I put it in a cellophane platform. Oh, baby, when you come to me, oh, with your sexy tone, am I going wrong? Turning my cell phone full.
Yeah. Et alors, je suis toute seule à applaudir, donc ça va être un peu ridicule.
Merci.
C'était Alan Crossley and the Teens, si je dis pas de bêtises. Lust for the 70s, c'est ce qu'on vient d'entendre, effectivement. Et si ça nous a donné envie d'en savoir plus, d'en écouter plus, quels concerts on peut proposer à nos auditeurs là dans les prochains, les prochaines semaines.
On fait 4 concerts ce week-end. Hein.
Oui. Alors,
on travaille le dimanche. Hein, c'est... Alors, ce week-end, c'est quoi le programme? Vendredi soir, on joue sur la péniche Valis Guidonis avec Cyril, mon partenaire. Alex ne sera pas là, mais, après la péniche, on joue au Grand Nord à Mayenne pour les 10 ans du Grand Nord, au conservatoire de Mayenne. Et donc là, Alex et Pierre, on sera à 3, donc guitare, chant, basse et deuxième guitare. Et samedi midi, on joue Shop et Compagnie. Non, Temple Mousse, pardon. Je confonds les deux tout le temps. Au Temple Mousse, le bar qui est juste à côté du marché à Laval. On joue là le midi pour la clôture du marché, justement, entre midi et demi et 14h. Et samedi soir, je fais un petit show. Tu viens, Alex, ou pas?
C'est l'occasion de régler en direct.
Samedi soir, oui, je serai là, il n'y a pas de problème.
Si venait. On fait un petit show comme ça à la guinguette de Montflour, chez Rock, mon ami Rock. La guinguette de Montflour, qui est un endroit que j'adore, où je passe la plupart de mes week-ends.
Voilà. Donc un week-end bien chargé aussi pour vous,
ouais,
de ce que j'ai compris.
Il n'y a pas de repos, hein. Ouais, c'est compliqué. En plus, on a un travail à côté.
Voilà, on ne s'ennuie pas.
On ne s'ennuie pas. Hein.
Et puis en tout cas, pas mal de dates aussi, donc pas d'excuses pour manquer un des concerts.
Pas l'excuse, mais vous pouvez retrouver toutes nos dates sur Instagram.
C'est ça, on est présents sur Instagram, sur Facebook. Et voilà, si vous voulez écouter aussi les morceaux, d'autres morceaux, on a une page SoundCloud, du coup, vous pouvez en retrouver...
Bon bah super, en tout cas là, voilà. On a toutes les infos.
Instagram, c'est
Alan
Crowley and the Teens, tout simplement,
c'est ça
s'écrit comme ça se prononce.
C'est ça.
Non mais si vous tapez Alan Crowley, C-R-O-S-L-E-Y, vous trouverez Instagram.
Eh ben super, là je pense que c'est bon, en tout cas nos auditeurs ont tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Arnaud et Alexandre d'avoir
Merci
été avec nous et d'avoir joué en direct pour la JT du local
Sans
sur
filet.
Votre radio. Exactement, c'est le direct. Et on va passer à un tout autre sujet puisque vous savez, hein, on retourne aux urnes d'ici 10 jours et c'est le premier volet de nos interviews des candidats aux législatives réalisées avec Radio Fidélité Mayenne.
Les 12 et 19 juin prochains, nous serons une nouvelle fois appelés aux urnes pour élire, cette fois-ci, nos députés. Beaucoup de candidats sur les 3 circonscriptions mayennaises. Et nous avons choisi d'unir nos forces entre radios associatives pour donner la parole aux candidats. Nous avons privilégié des émissions par parti ou par union de parti, quand c'était possible. Alors nous avons conscience des limites de cette formule, mais elle nous a semblé la moins insatisfaisante pour comprendre les positions des candidats.
Et nous accueillons aujourd'hui les candidats de la majorité présidentielle ensemble. Géraldine Bagnier, vous êtes députée sortante sur la 2e circonscription du Sud Mayenne. Vous êtes aussi conseillère municipale et déléguée communautaire. Béatrice Mottier, vous avez été adjointe à la mairie de Laval et conseillère départementale. Et pour la 2e fois, vous êtes candidate sur la 1ère circonscription à Laval. Et Yannick Favennec, vous êtes donc députée sortante sur la 3e circonscription à Mayenne. Vous brillez votre 5e mandat. Déjà bonjour à tous les 3.
Bonjour.
Bonjour.
Et nous allons commencer par le volet économique. Alors, une des premières préoccupations, semble-t-il, des Français, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et les perspectives ne sont guère enthousiasmantes. Quelles mesures envisagez-vous, Géraldine Bagnier?
Alors, dès juillet, il y a un projet de loi qui est en cours, hein, qui a été déjà discuté en Conseil des ministres, avec 3 points. Déjà du point d'indice des fonctionnaires, indexation des retraites sur l'inflation, et puis également triplement de la prime Macron. Donc, c'est des mesures attendues des Français, hein, des Mayennais aussi, puisque, évidemment, dans un contexte d'inflation, c'est un fort sujet d'inquiétude. Donc, dès juillet, projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Lizzie Béatrice Mottier.
L'objectif, c'est clairement, dans cette loi d'urgence, en fait, hein, de ne laisser aucun trou dans la raquette et d'accompagner toutes les personnes sur cette problématique de pouvoir d'achat, les étudiants, les personnes âgées, les actifs, et des mesures seront prises pour chacun d'entre elles.
Sur les bas salaires, hein, sur les travailleurs précaires, est-ce qu'il y a des propositions, Yannick Favennec?
Oui, moi je pense qu'il faut qu'on soit effectivement très attentif aux bas salaires, mais j'ai une pensée aussi pour les retraités, on a un vrai sujet là. On a une réforme à faire, une réforme globale des retraites. Et on a aussi à augmenter les petites retraites agricoles, artisanales, celles des commerçants, celles de certains salariés aussi. Et le président de la République a fixé un objectif, c'est 1 100 euros de retraite de base pour une carrière complète. Je pense pense qu'il faut absolument aller dans cette direction et rapidement, dès la fin de cette année.
Alors justement, vous parlez des retraites, sur l'âge de départ à la retraite, un sujet qui divise.
Oui, moi je crois qu'il faut, il faut vraiment essayer d'être le plus souple possible. Lorsqu'on a ses annuités, lorsqu'on a fait un travail difficile, lorsqu'on a une carrière longue, il faut pouvoir partir à l'âge qu'on le souhaite. Et puis, sans doute que progressivement, on arrivera à 64, 65 ans, parce que plus ça va, plus notamment les jeunes font des études longues et auront des carrières plus longues, donc finiront plus tard.
Quand vous parlez des annuités, c'est
42, 43 annuités.
Quand même. Géraldine Bagné.
Il faudra vraiment être vigilant. On a des retours, évidemment. On sait bien que dans certaines carrières, les ouvriers, notamment le travail de nuit, il faudra évidemment faire attention à ces carrières difficiles, souvent commencées très jeunes. Et là, c'est bien prévu dans le futur projet de réforme des retraites.
Béatrice Moutier.
On ne peut pas passer à côté du fait aussi que dans 10 ans, 50% de la population aura plus de 50 ans et les équilibres vont être bousculés. Donc, il faudra les prendre en compte. Mais la pénibilité, les carrières longues, les carrières fractionnées, hachées, doivent être prises en compte.
Et je crois vraiment qu'il faut que cette réforme se fasse avec le maximum de négociations. Il faut qu'elle soit transversale et non pas verticale, imposée depuis Paris.
C'est bien noté. Alors, ces propositions, cette revalorisation du pouvoir d'achat, etc., comment la financez-vous? Est-ce qu'on touche à la fiscalité?
Non.
Non.
Non, non. Non, non.
Alors, comment on touche, comment on finance?
Au contraire, pour la fiscalité, on fait encore baisser les impôts pour les Français, puisque par exemple, on va supprimer la redevance télévisuelle, donc audiovisuelle. Donc l'idée, c'est bien de continuer à diminuer les impôts pour les particuliers. Et là, on rejoint la thématique du pouvoir d'achat.
Alors comment on finance?
On finance, on peut espérer que la croissance va nous permettre de financer une partie, une grande partie de ces dépenses.
La finance, la croissance n'est pas forcément
l'objectif
à l'ordre du jour.
L'objectif, c'est bien de repartir sur une économie croissante. Ce sont les mesures de pouvoir d'achat qui nous permettront justement de repartir vers une croissance.
Désolée, vous auriez encore des choses à dire, mais il faut passer au sujet suivant.
Sujet suivant, donc forcément là aussi qui fait partie des priorités, l'environnement. Le dernier rapport du GIEC, on le sait, il est alarmant. Après avoir fait le constat d'une hausse continue des gaz à effet de serre et de l'intensification des événements climatiques extrêmes depuis déjà plus d'un siècle. Il faut agir aujourd'hui et de manière radicale, je pense qu'on le sait tous, si on veut limiter ce réchauffement de la planète à 1,5 degré. Quelles mesures phares pour vous? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Qu'est-ce qui est le plus important, le plus urgent, là, tout de suite? Béatrice Moutier.
Moi, je pense que, en fait, la cause écologique, maintenant, elle est entendue et c'est un devoir d'écologie que nous avons désormais. Et donc, le devoir, il doit être transversal et il doit être abordé à tous les points de l'action gouvernementale. En premier point, moi, je parlerai de la sortie des énergies fossiles. On le voit bien aujourd'hui. Ça nous pèse au plan économique et on doit évoluer vers des énergies alternatives qui préserveront l'environnement. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a tout un tas de mesures de manière transversale, mais j'ai peut-être laissé mes collègues les déroulés qui seront prises.
Oui, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on soit dans une écologie punitive. Comme vient de le dire Béatrice, c'est quelque chose de transversal. Nous sommes tous conscients de la nécessité d'avoir un comportement écologique et il faut faire aussi en fonction des territoires. Nous sommes sur un territoire rural, je pense en particulier à la mobilité. On ne peut pas imposer des voitures électriques à chacune et chacun de nos concitoyens. Une voiture électrique, ça vaut cher. Une voiture électrique, c'est une autonomie qui est assez faible encore pour le moment. Donc, c'est vrai que les voitures thermiques, dans l'immédiat en tous les cas, et pour quelques années encore, ça fera partie des obligations pour nos concitoyens pour pouvoir se déplacer. Donc, attention à ne pas imposer une écologie punitive.
Quelle solution? Allez-y, Géraldine Bagné.
Déjà dire que le président, il a annoncé une planification écologique et il va travailler avec chacune des structures économiques pour avancer sur la transition écologique. C'est important d'avancer avec les acteurs sur le terrain. Et donc, il y a plein de mesures d'annoncer dans le plan les 6 centrales nucléaires, la multiplication par 50 de la puissance solaire. Il y a également l'énergie éolienne marine. Donc, il y a énormément de mesures qui sont annoncées pour avancer sur cette transition écologique qui effectivement préoccupe énormément les jeunes, mais pas seulement toutes les générations. C'est un enjeu crucial.
Est-ce que la réindustrialisation de la France est un enjeu aussi?
Total.
Bah oui, bien sûr.
Total. Quel moyen?
On a inversé, au passage, on a inversé la courbe de perte des emplois industriels. Ça, c'est important de le dire. Et on a aussi inversé la courbe de chômage. Donc, on est sur la bonne trajectoire. On a un soutien aux entreprises qui est très fort, marqué, et qui porte des résultats. Donc là, il faut continuer dans la même veine.
Je crois que la pandémie a permis aussi cette prise de conscience de ramener des industries sur notre territoire.
Et ça, on peut vraiment le faire avec elle et en ayant la conscience écologique et le point écologique au cœur du développement.
Très bien. Moi, j'avais juste une dernière question sur l'environnement, si on a le temps, puisque on voit que vous parlez d'éolien, d'autres énergies renouvelables, où on parle aussi des déméthaniseurs, qui à chaque fois sont des projets très controversés par une partie des habitants, des collectifs. Comment est-ce que on travaille là-dessus et on travaille sur l'acceptation de ces projets-là?
Moi, je pense qu'il faut le faire avec un maximum de concertation en amont, de ne pas imposer. Je parlais tout à l'heure de ne pas faire d'écologie punitive. Il faut faire en sorte d'associer au maximum nos concitoyens aux décisions qui sont prises dans ce domaine et le faire en amont, ne pas le faire de façon verticale, comme malheureusement ça a été le cas parfois.
Je crois qu'il faut maintenant passer à la question de la santé, qui est cruciale également, et peut-être un petit peu liée d'ailleurs à l'environnement. Alors,
mais l'attractivité d'un territoire, elle repose en particulier sur la capacité de nos concitoyens à pouvoir accéder aux soins. Alors, c'est un vrai sujet chez nous. Il y a un désert médical qui n'est pas que mayennais. Hein. Il y a 8 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas accès aux médecins. Donc il y a urgence, si je puis dire.
Et du coup, concrètement, Géraldine Bagné.
Pour rappel, il y a quand même eu un plan d'investissement important via le Ségur pour aider nos établissements en Mayenne, 132 millions d'euros pour les hôpitaux et pour les EHPAD. Donc c'est quand même un investissement important pour l'attractivité des établissements. Et puis ensuite, on a vu hier Emmanuel Macron parler sur le sujet. Il lance une mission flash parce qu'on a un sujet dans nos urgences, on le sait. Il y a énormément d'établissements concernés, parce que le problème de la pénurie des médecins, il date pas d'hier ou d'avant-hier, il aurait dû être plutôt anticipé. Donc on va suivre ça de près, évidemment, mission flash.
Dès le début de la mandature
d'Emmanuel Macron.
Ouais.
C'est l'urgence de l'urgence. La mission flash, elle durera 4 semaines. On pourra ensuite avoir les données et travailler autour de ces sujets-là. Il y a évidemment l'organisation des urgences à l'hôpital. Il y a la désaffection des praticiens et des personnels hospitaliers qui est à prendre en compte. Et puis, il y a une organisation de territoire aussi à mener. Ça fonctionne bien sur certains territoires, on le voit bien. On a globalement des professionnels de santé qui sont extrêmement engagés. Il ne faut jamais l'oublier. Ils sont engagés, ils sont dévoués. Et ça n'est pas ça qui est au cœur du problème. C'est vrai qu'on a un problème de démographie médicale. Et il faut accompagner au mieux ce trou d'air dans lequel nous sommes. Et il est complexe.
Moi, je crois que sur la désertification, on a fait beaucoup par l'incitation financière avec, par exemple, les maisons de santé, avec des primes à l'installation, avec des aides au logement. Il faut peut-être maintenant aller vers un deuxième moyen qui est celui de la régulation. Installer les médecins là où on en a besoin. Par exemple, lorsque les étudiants ont terminé leurs études, 3 ans d'installation minimum dans un territoire sous-doté.
Donc là, de façon contraignante. Hein. On va être obligé de conclure très très vite. On vous laisse peut-être un dernier petit mot sur la Mayenne, parce que vous êtes quand même candidat sur notre département.
On est fiers
priorité,
d'être,
et chacun 30 secondes.
On est fiers d'être mayennais. On porte la ruralité comme un étendard, en tous les cas pour moi qui suis député sortant à l'Assemblée nationale. Il faut être fier de nos potentiels, de nos compétences, de nos savoir-faire. Nous sommes finalement les meilleurs ambassadeurs de notre territoire. Il y a encore un certain nombre de difficultés sur lesquelles on doit mettre le curseur, mais soyons vraiment porteurs de la ruralité comme d'une fierté.
Géraldine Bagné.
Moi, je suis la première ambassadrice élue donc, à l'Assemblée nationale, donc je suis très très fière de porter ce département pour le rendre attractif. Et puis, je suis fille d'exploitant agricole, donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé du renouvellement des générations en agriculture, mais c'est un sujet qui me préoccupe, même si je n'ai pas fait ma carrière professionnelle dans ce secteur. Mais voilà, je voulais parler de ce sujet-là aussi. Et puis, on a des petites communes dont on doit être fière, parce que je viens aussi d'une petite commune et qui était très conviviale. On a une qualité de vie en Mayenne dont on peut, à Courbevel.
Qui était convivial?
Qui est toujours très convivial. Ouf. Et c'est vraiment une qualité de vie qu'il faut revendiquer.
Béatrice Mottier.
Alors moi je suis sur une circonscription qui conjugue à la fois l'hyper-urbanité du territoire, c'est-à-dire la ville chef-lieu, et en même temps de la ruralité. Et on a quand même cette chance, c'est qu'à quelques kilomètres d'une ville où on a énormément de services et où il fait bon vivre, une ruralité active, on a un tissu entrepreneurial très dynamique, et énormément de PME, PMI aussi. Et c'est ça qui fait notre force, il faut en être très très fiers et il faut toujours le promouvoir.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je suis désolée parce que le temps est écoulé. Bien sûr, vous auriez eu encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ces éléments que vous avez pu nous donner permettront aux auditeurs de l'autre radio et de Radio Fidélité Mayenne de se faire une opinion.
Merci évidemment à tous les trois d'avoir été avec nous, Béatrice Moutier, Géraldine Bagnier et Yannick Favennec.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et demain, on entendra les candidats des législatives pour lutte ouvrière, eux aussi présents dans les trois circonscriptions de la Mayenne. On va passer d'ici quelques instants à la chronique UFC Que Choisir, mais avant, on fait une petite pause en musique avec Family Show de Deluxe. Family Show Deluxe, c'est ce que vous venez d'entendre dans la JT du local sur l'autre radio. Et puis c'est l'heure de passer à notre chronique UFC Que Choisir, comme chaque mercredi, une semaine sur deux. Jean-Michel Guinaudot, vous êtes bénévole à l'UFC Que Choisir de la Mayenne, association de défense des consommateurs. Si une somme a été débitée de mon compte bancaire alors que je n'ai rien acheté, que puis-je faire ?
Il faut savoir que lorsque vous payez un produit sur Internet, le règlement se fait par virement bancaire. D'une façon générale, on ne peut pas annuler un virement autorisé. Mais la banque doit rembourser tout prélèvement non autorisé. À elle de récupérer l'argent auprès du destinataire. C'est ce qu'on appelle le chargeback.
Dans quel cas peut-on demander ce remboursement ?
Dans tous les cas de prélèvement non autorisé. Évidemment, c'est le cas si votre carte a été volée ou piratée et que vous constatez qu'une somme a été prélevée sur votre compte alors que vous n'avez rien acheté. Mais c'est aussi le cas si votre opérateur téléphonique, par exemple, prélève 300 euros alors que votre facture habituelle est de 45 euros. Ou si vous avez commandé un produit qui n'est pas livré, comme cela peut malheureusement arriver si le site est un site frauduleux.
Alors, c'est bon à savoir, mais est-ce aussi facile que ça en a l'air ?
Évidemment, devant la multiplication des arnaques bancaires, les banques sont de plus en plus réticentes à faire le remboursement, en prétendant que le consommateur a validé la transaction en cliquant ou en donnant ses codes, ce qui apparaît dans l'historique de la banque, même si ce n'est pas vous qui avez validé l'opération. Et le prélèvement a été fait avec les codes de la carte bancaire, CB, Visa, Mastercard ou American Express. Votre contrat prévoit sans doute cette possibilité, mais il faudra demander à la banque de transmettre la demande à l'opérateur de la carte bancaire. C'est cette opération qui s'appelle le chargeback ou rétrofacturation. La banque doit le faire en votre nom. Il faut indiquer ce qu'ils appellent le reason code, spécifique à chaque réseau de carte bancaire et que l'on trouve sur le site du réseau. Par exemple, 4853 pour Mastercard.
Et pouvez-vous nous rappeler les cas d'application de ce chargeback ?
Alors les voici. Produits non reçus ou non conformes à la description. Vol de carte bancaire. Piratage de carte bancaire. Fraude avérée. faillite de la société, et toujours le cas de prélèvement autorisé, comme nous l'avons vu. Et c'est à la banque de prouver que vous avez commis une négligence grave et qu'elle a bien sécurisé vos données. Dans la plupart des cas, elle l'affirme, mais ne le prouve pas, et les juges donnent raison aux consommateurs floués. En cas de produit non reçu, après une ou deux relances du vendeur, et si on s'aperçoit que celui-ci est un fantôme, c'est donc vers son banquier et son réseau de cartes bancaires qu'il faut se tourner. C'est un droit que, malheureusement, les banquiers rechignent à appliquer ou feignent de l'ignorer.
Merci Jean-Michel Guinaudeau pour ces informations. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association au cas où nos auditeurs mayennais seraient en litige avec un professionnel ?
Alors l'UFC Que Choisir de la Mayenne, elle vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel.
Et ces chroniques, bien sûr, vous pouvez les réécouter sur notre site l'autreradio.fr. On passe au troisième épisode de notre feuilleton de cette semaine autour de Laval pendant la Seconde Guerre mondiale avec un film documentaire sur le sujet réalisé par Stéphane Piau, l'ancien réalisateur de la ville de Laval, et commenté par deux témoins de cette guerre, Jeanne Bongard et Marie-Thérèse Crespel, âgées respectivement de 6 et 7 ans. Aujourd'hui, elles nous expliquent la libération de Laval et l'arrivée des Américains. C'est au micro d'Andy.
On était à l'abri, à dormir dans la cave. Alors, on l'a su par ma grand-mère qui était sortie voir ce qui se passait, voir si sa maison était toujours debout. Et puis qu'elle a appris qu'ils étaient arrivés, quoi.
Nous, c'était à Changer. On était dans un four à chaud. Ça faisait 3 jours qu'on était là. Parce qu'avec les Allemands, à Changer, ça a été dur, là. Hein, ça a duré longtemps. Et ils nous ont fait sortir, les Américains. On les a vus passer dans la cour. Les uns derrière les autres, ils nous ont fait sortir un par un, baïonnette au canon. Et puis il fallait. Là, on a eu peur parce que des Allemands, on ne savait pas ce qu'ils disaient, c'est des Allemands, d'autres qui disaient c'est des Américains, on ne savait plus là.
Et après, il y a eu pas mal de temps sur les chewing-gums dans le reportage.
Ben non, écoutez, on avait des bonbons. Oui. Et puis alors des soupes déshydratées quelquefois aussi. On connaissait pas.
Les Américains ont changé. Ils étaient dans un champ à côté de nous. Et tous les jours, on avait le droit d'aller les voir. Papa avait du cidre de poire. Il pensait que c'était du champagne. Alors on leur donnait. Papa nous en donnait pour. On revenait avec du savon, du chocolat. Ils nous donnaient ça à la place.
Sur le pont Aristide Briand qui avait été restauré, mais c'était une passerelle, du camion, ils nous jetaient là, on était plein de gosses à voir passer. Avant, on est allé pour le chewing-gum, et puis les garçons, ils allaient pour les cigarettes.
Et vous vous rappelez de votre premier chewing-gum?
Ah, oui. Un deuxième tout de suite après, comment voulez-vous?
Vous l'avez avalé, du coup, le premier ou pas?
Non, on savait qu'il ne fallait pas avaler.
Il y a eu la destruction des ponts par les Allemands.
Le 6 août. Alors, les deux premiers ponts ont sauté assez rapidement et c'est le pont d'Avenières qui a été le dernier à sauter.
Et à Changer aussi, on était à Changer, il a fallu qu'on s'en aille de la remise où on était et s'éloigner dans les champs, on a couché dans un champ. Oui. Et puis quand le pont a sauté, ça nous a soulevés. Hein.
Et vous savez le pont qui n'a pas sauté de la Mayenne jusqu'à Château-Gontier, c'est le pont de la Valette. Alors c'est du côté de Housset.
Ah oui.
Et c'est le seul. Et alors du coup les Américains l'ont utilisé.
Et comment vous vous nourrissiez? On retourne en général.
Comme on pouvait, on n'était pas difficile. Oui,
bah, la bouillie de sarrasin, c'était pas très bon. Des topinambours, des châtaignes, des. Comment on appelle ça? Dans le pot-au-feu, là. Pas des navets, mais des rutabagas. C'est pas bon, mais enfin. On avait faim.
Quand on pouvait avoir une volaille à la campagne, on était content, mais enfin bon, fallait-il connaître? Oh ben, tout à fait, oui.
Et demain, place au dernier épisode de ce feuilleton avec Stéphane Piau, le réalisateur du film. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui, mais à 19h, retrouvez Novorama, suivi à 21h de Chaosphère. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.